Cap Sport.
Salut à tous, Cap Sport largue les amarres jusqu'à 19h, émission spéciale Alan Roura, le jeune navigateur suisse de 25 ans va prendre le départ de la route du Rhum dans 3 semaines à Saint-Malo en France. Nous sommes allés le rencontrer récemment en Bretagne pour tester son nouveau bateau mais aussi évoquer ses grandes ambitions. Vous entendrez aussi sa compagne et chef de projet de l'équipe Aurélia Moureau, le patron de la fabrique Cyril Cornu. Son entreprise est basée au bord du lac de Neuchâtel, il est sponsor principal du marin Genevois. Vous êtes prêts? C'est parti, on embarque.
Cap Sport. Jérémy Pignard.
Et c'est vous, Gabriel, qui avez fait le voyage jusqu'à Lorient, c'était le mois dernier.
Oui, Jérémy, 2 jours passés avec Alan Roura et son équipe.
Alan Roura qui a fait son entrée dans le cercle fermé des marins qui ont pris part au Vendée Globe.
Absolument, qui plus est à l'âge de 23 ans, soit le plus jeune marin de l'histoire engagé dans cette course de l'extrême autour du monde, sans escale et sans assistance. Une course, on le rappelle, qui est surnommée l'Everest des mers. Alors autant dire que le skipper de la fabrique n'a pas fait de la figuration. Il a terminé à la 12e place sur les 29 concurrents ayant pris le départ.
Et depuis, Alan Roura a renforcé son équipe, il a aussi fait l'acquisition d'un nouveau bateau.
Oui, auréolite son succès, le skipper n'a pas perdu de temps, ces 2 années lui ont permis de franchir un nouveau palier, d'acquérir une nouvelle stature. Il ne cache pas d'ailleurs ses ambitions et compte beaucoup sur sa nouvelle bête de course pour jouer les premiers rôles.
Et c'est sur l'eau qu'on vous retrouve, Gabriel, aux côtés d'Alan Roura, à bord de l'Imoca La Fabrique version 2.0. C'est une véritable Formule 1 des mers de 60 pieds, plus de 18 mètres de long.
Ouais, il y a des sons un peu inquiétants pour les personnes qui n'ont pas l'habitude.
Non, faut pas s'inquiéter des bruits, c'est tout à fait normal. C'est des bateaux qui demandent vachement d'efforts et on va avoir 4 tonnes par exemple dans les écoutes là. Le pied de mât, il y a 22 tonnes de compression dans le pied de mât par exemple. Donc il peut y avoir des bruits un peu étranges, entre guillemets, mais il n'y a rien d'inquiétant.
Donc rien d'anormal.
Rien d'anormal. Tant qu'on touche pas le fond, c'est bon.
Est-ce qu'on peut faire une petite visite du bateau, nous le décrire? Qu'est-ce qui change par rapport au modèle précédent?
C'est un bateau qui est beaucoup plus volumineux. Alors, en termes d'espace, on a un cockpit qui doit faire 4 fois la taille de l'ancien bateau. Tout comme l'intérieur, hein, y a en espace vital, la cellule de vie, on appelle ça comme ça. On va avoir, pareil, à peu près 3 fois la taille de l'ancien bateau. C'est plus grand, c'est un bateau qui est toilé différemment aussi, donc il a une surface, il a plus de voilure devant que derrière, contrairement à l'autre bateau. Et puis après, en utilisation, au niveau des winches, au niveau des emplacements pour travailler réellement, c'est beaucoup plus simple, plus agréable. La quille aussi est différente, c'est un vérin hydraulique qui gère le système de quille, donc l'angulation en fait de la quille, contrairement à l'autre où c'était des boots avec un winch manuel. Voilà, tout ça fait que c'est un bateau plus agréable, plus simple, donc plus rapide à aller vite en fait. On a plus de facilité à le faire marcher quoi.
C'est pas plus dangereux d'avoir plus d'espace pour tomber, pour glisser?
Alors c'est plus dangereux, c'est sûr. Clairement là, je me suis déjà bien fait mal sur ce bateau. 2 fois d'ailleurs, une fois c'était le bas du dos bassin et la deuxième fois c'était le bassin à traverser le bateau. C'est un bateau qui demande de faire vraiment attention et de protéger les angles vraiment du cockpit par exemple et aussi soi-même quoi. Je pense que sur la route du Rhum, je vais naviguer avec des genouillères, avec des protections autour de moi. Ça devient un bateau difficile aussi avec les foils, très volatile donc qui a des mouvements très brusques.
Alan Roura, on est étonné quand on entre dans la cabine là, qui est juste devant nous, du confort très spartiate, c'est le moins qu'on puisse dire. On a plutôt l'impression d'être dans une salle de torture que dans un salon réconfortant.
Ah ouais, y a pas grand chose dans ces bateaux. L'idée c'est d'avoir des bateaux légers, donc le moindre gramme est compté. Le confort du marin c'est une chose, mais on essaie de le faire avec le strict minimum, là, c'est-à-dire un sac de billes, un pouf hein, comme on appelle ça, qui permet de dormir dans le bateau.
Si on regarde, on va quand même jeter un œil dedans. Cette cabine, c'est vraiment l'enfer. On peut s'appuyer nulle part, on risque de se reprendre des poutres dans la figure.
Ah, y a rien, hein. C'est sûr que vu comme ça de l'extérieur, y a vraiment pas grand-chose. Mais il y a le strict minimum pour naviguer et même pour faire 3 mois sur l'eau dans le bateau, quoi. Il faut s'imaginer que plus il y a de choses, plus il y a de potentiel que ça casse, et même dans l'habitacle intérieur, donc du danger. Quand une pièce en carbone casse, c'est des fibres qui explosent et on peut se faire mal.
Mais on arrive quand même à 6 mètres de large d'un bord à l'autre. Ça veut dire que si le bateau est à la verticale, ce qui peut arriver, on risque de se faire mal.
Complètement, complètement. Là, l'idée, ça va être de mettre des filets en fait, de séparation de cette zone qui va amortir un petit peu ce grand choc de 6 mètres. On va essayer de le réduire à 3, ça sera déjà vraiment bien. Mais y a toujours du danger. Hein. Là, l'idée, ça va être aussi de naviguer avec un casque. Beaucoup de skippers naviguent déjà avec des casques et ça va finir comme ça. Ouais.
Par rapport à la force des voiles, les voiles sont immenses. Comment tout seul on arrive à manier ce bateau, à changer les voiles? Ça a l'air d'être des travaux d'Hercule.
C'est sûr que c'est assez tendu, parce que voilà, c'est beaucoup d'efforts sur le bateau à donner. Les voiles sont lourdes, mais elles sont plus légères que sur l'ancien bateau, donc pour moi c'est plus facile. Après, voilà, c'est prendre son temps, faire des belles manœuvres, c'est très important. Et puis, il faut éviter de faire éviter de faire des boulettes. C'est-à-dire que quand on doit récupérer une connerie sur un bateau de cette taille-là, en gros, on met 3 jours à récupérer ce qu'on a donné au bateau. Donc, il faut vraiment faire les choses bien, calmement, mais rapidement, mine de rien, parce que les autres, ils le font aussi bien et rapidement. Donc, voilà, l'enjeu en fait de la course, c'est pas d'avoir un bateau seulement rapide, c'est aussi de le manier bien et de faire le moins de conneries possible. Et là, c'est ce que c'est un peu l'apprentissage actuel de se dire bon, alors où est-ce qu'il y a des conneries à faire, à ne pas faire, où est-ce qu'on peut jouer. C'est sûr que c'est ultra fatigant, hein, les virements de bord, les empannages, un envoi de voile, voilà, ça prend du temps et il faut tout donner, quoi.
Autour du coup, vous avez un appareil qui apparemment est comme un gilet de sauvetage, racontez-nous.
Alors cette petite télécommande qui vient du pilote NKE, c'est une centrale en fait qui permet de piloter le bateau automatiquement, que ce soit en mode vent ou en mode compas, on peut lui donner un cap à suivre, vraiment cap compas, ou le vent, on lui donne un angle et le bateau va suivre cet angle. Et puis, cette télécommande nous permet donc de le guider aussi et nous permet, en cas de mal à mer, donc celui qui porte cette télécommande, de, après 20 ou 30 mètres séparés du bateau, il y a un capteur dans le bateau, ça met un dispositif de mal à mer à bord du bateau. C'est-à-dire que le pilote automatique va pousser la barre du bateau et se mettre face au vent et en gros attendre que son skipper remonte à bord. Alors, en théorie, ça marche très bien. Dans la pratique, il faut imaginer qu'un bateau qui dérive va quand même beaucoup plus vite qu'un marin qui nage, hein. On n'est pas des grands nageurs, on n'aime pas vraiment l'eau en plus normalement. Donc voilà, c'est une sécurité, on l'a, on va dire que c'est bien pour nos compagnes.
Et comme vous n'êtes pas tombé à l'eau, Gabriel, vous avez pu vous entretenir plus longuement avec Alan Roura de retour sur le ponton.
Oui, bien au sec, avec le Genevois, il nous parle du chemin parcouru en 2 ans après sa course au Vendée Globe. Il nous dit ce qui a changé pour lui.
Oh, beaucoup de choses, hein. Aujourd'hui on a la chance d'avoir une équipe plus conséquente, donc qui permet de travailler dans des bonnes conditions sur le bateau, un bateau plus préparé, avec plus de budget forcément. Tout ça lié, ça fait un projet concret avec des bonnes ambitions, des ambitions plus de performance cette fois-ci que d'aventure. Et ça a énormément changé. Après, moi je reste toujours pareil, dans les mêmes optiques que j'ai pu être à l'époque, de vouloir prendre le départ et terminer une course. Et là, l'idée est quand même de jouer dans le haut du tableau. Voilà, après dans les changements, c'est plutôt la performance cette fois-ci, vraiment toucher la performance.
Ça veut dire quoi, la performance, le haut du tableau? Vous voulez jouer à armes égales avec un Armel Lecléache, Alex Thompson?
Ouais, alors peut-être pas à ce niveau-là, ce sont des très très grands marins, mais jouer avec des bateaux qui ont pu potentiellement gagner le dernier Vendée Globe, là, les bateaux de génération 2015, ce serait magique quoi, de jouer avec eux. Après, ça va dépendre des conditions météo. Moi, j'ai un bateau plutôt de gros temps, donc il va falloir vraiment tricoter avec ça. Mais déjà pouvoir vraiment jouer et ne pas se faire décrocher dès les premiers jours, ça c'est la base.
Au premier Vendée, le but c'était de montrer que même un jeune de 23 ans avait voix au chapitre, n'était pas là pour faire de la figuration. Maintenant on a l'impression que c'est comme si c'était acquis, comme si vous alliez le finir forcément, il ne restait plus qu'à savoir à quelle place.
C'est vrai que c'est assez rigolo, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Au début on pariait sur le fait que j'allais jamais terminer le Vendée Globe, que j'allais abandonner, je sais pas, au Brésil ou je ne sais où, à la Corogne. Et finalement je l'ai terminé. Aujourd'hui les gens ne se posent plus la question de ce qu'il va finir ou pas. C'est à quelle place quoi. Et puis j'ai une petite réputation aujourd'hui de remontada, on va appeler comme ça, c'est Alan la remontada, parce que je remonte à chaque fois la flotte au dernier moment. Et c'est vrai que je suis un diesel, il me faut du temps pour me chauffer, mais quand je suis dedans, je suis vraiment dedans et j'attaque. Donc voilà, là c'est jouer des belles places quoi.
Mais en quittant le chenal des Sables d'Olonne, un grand moment dans votre vie de marin, la première fois, il y avait des pleurs parce que vous n'étiez pas forcément sûr de revenir. Quand vous allez prendre le départ du Vendée Globe dans 2 ans, vous serez dans le même état d'esprit, avec autant de doutes, ou vraiment vous êtes axé maintenant performance?
Ouais, je pense que de dire qu'il n'y aura pas de doute, d'être la tête sur les épaules ce jour-là en se disant « non, mais je vais revenir, pas une larme », ça n'existe pas en fait. Ceux qui font ça, ce sont des gens qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas leur famille ou qui ont un ego supérieur à tous. Je sais que les pleurs seront là, que la peur sera là. C'est un moment difficile, on part, on ne sait jamais si on va revenir. Peu importe le bateau, si on l'a déjà fait ou pas, ça ne change rien. C'est à chaque fois une nouvelle course et une nouvelle expérience. Donc non, ça sera la même, voire pire.
Néanmoins, un nouveau statut, une nouvelle confiance en vous, avec un nouveau bateau. Qu'est-ce que vous avez ressenti en essayant pour la première fois des foils ?
Bon, moi, les foils, c'était ma première nave, ça a été sur ce bateau-là avec des foils. Je m'étais, entre guillemets, interdit de naviguer sur un autre bateau avant. Je voulais avoir cette sensation-là sur mon bateau. Et c'est vrai que la première nave avec ce bateau, je m'en suis pas vraiment rendu compte parce qu'on n'a pas décollé avec les foils. Par contre, c'est quelques semaines plus tard où là, on a vraiment eu les conditions pour le faire décoller. Ouais, c'est un moment incroyable. C'est une espèce d'ascenseur en fait émotionnel qui est là et en plus de ça, ouais, péter le record de vitesse avec le bateau. Enfin, c'est magique. C'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Vous êtes juste derrière un de vos futurs concurrents, Jérémy Bayou, à bord de Charal, qui est un bateau vraiment de toute nouvelle génération. Quand vous voyez ça, vous dites mince, j'ai de nouveau un temps de retard. Vous dites, vous allez voir ce que vous allez voir.
Bah, quand je regarde ce bateau, je me dis déjà de 1, bravo aux architectes, bravo aux skippers, parce que c'est osé. C'est un bateau qui est très puissant, très performant. Maintenant, c'est pas le tout d'avoir un joli bateau dans un port. Il faut naviguer, il faut que le bateau tienne. C'est très important. Je pense que niveau puissance, c'est un bateau qui est dans l'extrême total. Voilà, j'espère pour lui que ça va bien se passer, mais je suis content d'avoir le bateau que j'ai aujourd'hui, dans le sens où en mer, je peux naviguer sereinement.
C'est vrai que si on regarde les foils de votre bateau et celui d'à côté, le Charal, on voit que vous avez de petits foils, sauf leur respect. Et à l'inverse, le Charal a des foils énormes. Vous êtes de nouveau en retard d'une tendance ?
En retard, je pense pas, en fait. Je pense simple... Enfin, il y a des générations, il y a des... Je pense qu'on a... J'espère, du moins c'est ce qu'on a essayé de travailler jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir deux coups d'avance en fait sur eux. Voilà, c'est l'idée qu'on a depuis qu'on a créé ces foils, c'est de se dire on sera en avance. Et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tous ces bateaux-là, c'est qu'ils ont créé les mêmes foils qui existaient entre guillemets avant, mais en plus grand. Nous, on a fait une forme différente, courbée différemment, avec une sustentation de la carène différente. Donc finalement, moi ça m'impressionne. Oui, c'est joli de voir des foils énormes, mais j'attends de voir dans le Grand Sud comment ils vont jouer avec ça. Parce que sans leur feuille, le bateau ne marche plus.
On est ici à la base à Lorient pour qu'on se représente. On est ici vraiment à l'épicentre de la course au large, un des épicentres en France de la course au large. Vous êtes en très bonne compagnie.
Ah, ici, c'est sûr qu'on est, dans un lieu mythique. Hein. On se retrouve avec les plus grands marins, Armel Le Cléach, Sébastien Josse, donc les bateaux Gitana, Banque Populaire, Charal, Jérémy Bayou et j'en passe. Donc Samantha Davis, tout le monde est là. Et d'être avec eux, c'est un honneur, en fait. C'est un honneur. Et puis, il y a ce respect aujourd'hui j'ai réussi à avoir de leur part de pouvoir m'aligner avec eux, en fait, ici et d'être respecté. Et ça, c'est... Ah, c'est magique, je suis honoré et voilà, j'ai fait mon petit trou et c'est cool.
Et il y a toutes les équipes qui s'activent, qui se croisent évidemment au jour le jour. C'est quoi le climat ? C'est entraide ou c'est espionnage ?
Il n'y a pas vraiment d'entraide ou il y a un peu d'espionnage. Mais il n'y a pas vraiment... Si, il y a des entraides en fait, mais c'est assez drôle parce que ça fonctionne entre les teams, ça ne fonctionne pas entre les skippers. C'est-à-dire que les teams dans la course au large sont assez proches les uns des autres, puisque souvent ils ont besoin d'une pièce ou d'une autre, et puis on se démerde entre nous. Par contre, entre skippers, c'est très froid. Ça reste très bref, un bonjour, un au revoir. On ne va pas aller prendre une bière le soir ensemble, quoi. Et alors qu'avec les teams... Voilà, il y a ce côté où on a envie d'aller boire un verre, de discuter, etc. Et voilà, donc il y a une entraide entre teams, mais pas en cours.
La route du Rhum, prochain grand objectif, est-ce que c'est un entraînement pour le Vendée Globe ou est-ce que à part entière, vous nourrissez des objectifs élevés ?
Alors cette course, elle est assez rigolote parce qu'effectivement, c'est un entraînement pour le Vendée Globe. Hein. Il faut le prendre comme de l'expérience au large en solitaire. Le début de course, c'est toujours très difficile, donc il faut vraiment bien le gérer. Et à la fois, la route du Rhum, elle a, c'est une course qu'on ne peut pas faire comme entraînement. On a envie de le faire, mais on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que c'est une course tellement prestigieuse qu'on a envie de donner le meilleur de soi-même. Et donc, on ne l'utilise pas comme un entraînement, mais vraiment comme le Vendée Globe, comme une course, un rêve, un but. Et donc, on va aller chercher cette performance-là sur cette course. Et c'est l'idée aujourd'hui, quoi. Donc, j'ai besoin de la finir, j'ai envie de la finir. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais je vais quand même essayer de jouer la meilleure place possible.
Cap Sport, jusqu'à 19h.
Alan Roura, qui n'est pas seulement skipper, il est aussi patron.
Son entreprise à Lorient compte désormais 6 salariés, dont Aurélia Moureau. Celle qui est aussi sa compagne occupe la fonction de chef de projet. Elle dirige aussi la communication de l'équipe depuis la première heure et elle mesure mieux que personne l'évolution d'Alan Roura, l'élu de son cœur.
En 2 ans, c'est vrai qu'Alan, il a beaucoup grandi, il a beaucoup mûri. Il avait 23 ans, il en a 25 aujourd'hui. Donc dans la vie d'un homme, c'est pas anodin ces 2 années, surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et puis au sein de notre couple, voilà, le fait de structurer l'équipe, de s'entourer d'autres personnes, ça permet aussi de prendre davantage de distance, de même si on mélange toujours un peu professionnel et personnel, c'est quand même un petit peu plus ordonné, on va dire ça comme ça. Moi j'ai beaucoup moins de responsabilités qu'avant dans le projet, donc au sein de notre couple ça fait du bien aussi. On communique, hein, forcément, je reste sa confidente, mais comme n'importe quel couple en fait, qui travaille ensemble ou pas. Donc ça nous a permis de poursuivre notre petit bout de chemin ensemble de façon sereine. Et du fait d'avoir un projet sur 4 ans, ça permet de voir aussi au moins moyen terme. Donc pour n'importe quel couple, c'est bien de savoir à peu près où on sera dans 3 ans maintenant.
La route du Rhum, c'est une transatlantique en solitaire pour Alan Roura. Comment vous allez le vivre au départ? Est-ce que ce sera toujours un peu la même angoisse de ne pas le voir revenir, d'avoir peur pour lui? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes beaucoup plus confiante parce qu'il y a du métier, parce qu'il y a de l'entraînement?
Alan, je lui ai toujours fait confiance. Moi, je l'ai connu dans ce milieu de la voile, donc je savais dans quoi je m'embarquais. Je savais qu'il se destinait à faire une carrière de coureur au large, donc dès l'instant où je l'ai connu, il fallait que j'aie confiance en lui, sinon c'est invivable quand on reste à terre. Donc sur cet aspect-là, la professionnalisation du projet n'entre pas tellement en compte parce que je pense que j'ai une confiance un peu aveugle. Après, de façon rationnelle, oui, c'est sûr que le bateau est mieux préparé qu'au départ du Vendée Globe, et encore, parce qu'on avait un tout petit budget, mais on avait vraiment tout mis dans la sécurité du bateau. Je ne l'aurais jamais laissé partir autrement, je ne suis pas complètement inconsciente. Donc il y a toujours une petite appréhension, un départ de course, c'est quand même des moments forts en émotion, on a toujours une petite boule au ventre, les yeux qui picotent. Mais encore une fois, moi j'ai cette chance de travailler au sein du projet, ce qui fait que j'ai mes occupations au moment du départ. C'est notamment moi ma grosse période de roche, donc le fait d'être occupé, ça aide aussi à se détacher un petit peu. Et puis pareil, quand il est en mer, je suis une de ses interlocutrices privilégiées de par mon rôle de chargée de communication. Donc j'ai des mails perso, et puis de temps en temps, je lui rappelle qu'il faut qu'il m'appelle pour faire un point sur la course. Et puis une route du Rhum, le record de François Gabart en 2014, c'est 12 jours et quelques. À l'époque, les bateaux n'avaient pas de foil. Alan, il est encore en rodage, mais bon, on part sur deux petites semaines de course, si tout va bien, si la météo le permet, s'il n'y a pas d'incident technique. Donc c'est toujours plus court qu'un Vendée Globe, donc on l'attendra en Guadeloupe impatiemment, mais ça risque d'arriver très vite et ensuite de passer très vite.
Gap Sport.
Et Gabriel, on le rappelle, le bateau de l'équipe porte le nom de La Fabrique. Ça, c'est pas breton, ça vient de chez nous.
Bien vu, Jérémy. La Fabrique, c'est le sponsor titre du projet d'Alan Roura. Il s'agit d'une entreprise du groupe Cornu, spécialisée dans la boulangerie fine. Elle est située à Champagne, aux portes du canton de Neuchâtel. La Fabrique, qui a d'entrée de jeu cru en Alan Roura pour son premier Vendée Globe. Et aujourd'hui, elle lui garantit le financement pour poursuivre l'aventure. Le directeur de La Fabrique, Cyril Cornu, nous dit pourquoi il a choisi de rempiler.
Le fait que tout se soit passé à merveille sur la première édition du Vendée Globe, on a eu une expérience totalement folle, extraordinaire, sans accrocs, sans aucune animosité ni d'un côté ni de l'autre. Je crois que tout s'est très très bien déroulé. Et puis on ne pouvait pas le laisser partir comme ça sans même essayer de continuer l'aventure. Donc on a très vite trouvé un accord et puis on est super heureux que ça se passe comme ça.
Alors pour continuer, il faut avoir des moyens, il faut mettre de l'argent sur la table. Est-ce que c'est bien juste que vous mettez à disposition 1 million de francs par année d'ici le Vendée Globe?
Alors c'est pas tout à fait comme ça. Alan a besoin effectivement d'un montant qui s'approche de ce que vous mentionnez par année pour assurer le budget de son équipe. Et nous, on lui a garanti ce montant. Maintenant, c'est un montant qui est beaucoup trop important pour nous. On ne peut pas se permettre de lui octroyer un montant pareil chaque année sans trouver d'autres sources de financement. Donc c'est pour ça que nous, on a besoin que des partenaires extérieurs viennent se greffer au projet. Il y a des entreprises qui ont déjà fait le pas. Il y a Swiss Pro qui est là depuis plusieurs années. Il y a Prodis qui est aussi là depuis plusieurs années et qui vient de re-signer. C'est des entreprises comme ça qui sont d'autant plus importantes pour le projet.
N'empêche que la fabrique maintenant se fait un nom ici à Lorient, à la base, là où tout se passe, aux côtés de Team Banque Populaire. On voit le bateau Edmond Rothschild Gitana tout près de l'IMOCA de Alan Roura. Qu'est-ce que ça vous fait de mettre la fabrique comme ça au top des entreprises qui font la voile aujourd'hui?
Je crois qu'il faut savoir garder les pieds sur terre. C'est pas parce qu'on a notre bateau à côté de Gitana ou de Banque Populaire qu'on fait partie de la même cour. C'est des teams qui ont des budgets quasiment illimités. C'est des performances dont on n'a même pas idée. C'est des budgets qui sont colossaux et on pourra jamais être dans la même cour qu'eux. Donc il faut savoir garder les pieds sur terre. Maintenant, c'est vrai que c'est un énorme plaisir, c'est un honneur de pouvoir se dire qu'on a aussi un bateau qui est amarré là, à Lorient, au pôle de course en large. Ça, c'est quelque chose de sensationnel. C'est d'autant plus plaisant que la fabrique, ça va plus seulement être un bâtiment à Champagne, parce que c'est le problème qu'on a un petit peu aujourd'hui, c'est que les Français ne savent pas ce que c'est la fabrique. Et très bientôt, ils sauront ce que c'est la fabrique, puisque la fabrique devient une marque. Devient une marque produit. Il y a des produits qui seront vendus sous la marque La Fabrique et qui sera distribué notamment en France. Quand on sait que la Route du Rhum, le Vendée Globe, les Transat Jacques Vabre sont des événements très médiatisés, surtout en France, ça donne d'autant plus de sens à une commercialisation en France de cette marque. Donc c'est pour ça, c'est cet élément-là qui fait qu'on est encore là aujourd'hui.
On dit que qui paye commande, vous garantissez l'argent. Est-ce que vous avez un mot à dire au-delà du positionnement du logo ou de la disponibilité de l'équipe pour vos clients? Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport aux objectifs sportifs, aux ambitions que doit afficher Alan Roura?
Pour être tout à fait honnête, j'en sais rien. Je ne sais pas si un sponsor peut se permettre de dire à son skipper « Ouais, je veux que tu finisses troisième parce que sinon ça ne va pas aller ». Je ne sais pas si j'aurai le droit de le faire, mais ce qui est sûr, c'est que je ne le ferai jamais. C'est pas du tout notre façon de procéder. On est sponsor d'autres athlètes qu'Alan, d'autres athlètes suisses, auxquels on n'a jamais mis d'impératif de résultat. Et on ne fera pas différemment avec Alan. Il n'y a aucune pression à ce niveau-là. Parce que je sais très bien que si je dis à Alan, je veux que tu sois premier, il va me dire d'accord, mais tu me payes le bateau dernière génération. On n'est pas du tout dans cette collaboration-là. On est vraiment dans une optique de faire les choses correctement, de faire les choses bien, de faire les choses le mieux qu'on peut. Mais sans aucune pression au niveau des résultats. Non.
Quand vous regardez la suite, vous voyez les choses comment? Est-ce que vous voulez inscrire la fabrique comme un acteur incontournable de la course au large, peu importe le budget? C'est-à-dire que vous imaginez durer, construire à long terme ou pas forcément?
Non, pas forcément. Il ne faut pas entendre qu'on ne veut plus faire de la course au large. Mais je crois que tout est une question de circonstances. Aujourd'hui, on est là parce que ça se passe très bien avec Alan. Je ne sais pas, Alan, ce qu'il va faire en 2021. Peut-être qu'il arrête tout. C'est possible, hein. Il aurait totalement le droit. Je pense qu'il l'aurait mérité, d'ailleurs. Parce qu'après deux Vendée Globe, il n'y en a quand même pas beaucoup qui l'ont fait. Et je ne suis pas sûr qu'on veuille continuer avec un autre skipper. Si Alan décide de continuer, alors on sera très heureux pour lui, déjà. Et puis on verra si nous aussi, on peut continuer avec lui. Parce qu'il a aussi le droit de vouloir des sponsors qui lui mettent un peu plus de moyens à disposition. Et puis de pouvoir encore franchir un palier. Et là, ce sera à ce moment-là très compliqué pour nous. Et d'un autre côté, on peut aussi peut-être trouver un nouveau skipper qu'Alan nous présente, qui nous recommande, et puis on recommence une aventure. Enfin, il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent à nous. On n'y a pas pensé, c'est pas du tout notre stratégie. On voit pas plus loin que ce qui est sûr. Là, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on va aller jusqu'au bout du Vendée Globe avec Alan. Et puis, la suite, on verra.
Cap Sport.
Et Gabriel, on le rappelle, dans 3 semaines, les choses sérieuses commencent pour Alan Roura.
Retenez cette date, le 4 novembre, c'est le jour du départ de la Route du Rhum à Saint-Malo. On ne manquera pas, bien sûr, de vous tenir informé des exploits de notre Roura national.
Merci beaucoup, Gabriel Devec, d'avoir partagé ce formidable voyage en Bretagne. Du sport, ça continue ce week-end sur nos antennes. Dès ce soir, la National League de hockey sur glace dès 19h30 sur RJB avec HC Bienne Genève. Demain soir, même heure, ce sera Zug HC Bienne de la Swiss League également. Ce soir avec La Chaux-de-Fonds qui reçoit les Ticino Rockets, c'est à suivre sur RTN dès 19h30. Sur RFJ, ce sera Ajoie face aux Getseka Lions dès 19h45. Ajoie que vous retrouverez dimanche dès 15h45 face aux Ticino Rockets. Et demain, du basket avec le derby de Swiss Basketball League entre Union Neuchâtel et le BC Boncourt. C'est à vivre en direct dès 17h45 sur RFJ et RTN. Autre derby, cette fois en football dimanche. Duel jurassien de première ligue entre les SR de Léman et le FC Basse-Cour. C'est à suivre dès 14h15 sur RFJ. Cap Sport, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Émission que vous pourrez retrouver en podcast et sur nos applis. Très bonne soirée.
Cap Sport.